Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume de l'été. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en public, et quel public, au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à la rentrée littéraire avec les idéalistes de la critique pour parler des idéaux d'Aurélie Filippetti et des nouveaux romans de Maëlys de Kerangal, Samuel Benchetrit, Christophe Boltanski, Jérôme Ferrari. Il y aura des conseils à la fin de l'émission dans le courrier de la semaine à propos de la bio de Leonard Cohen par Sylvie Simons aux éditions de L'Échappée. Eh bien, Michel Dédier lance un bravo et un merci à Michel Crépu pour avoir dit que Leonard Cohen l'ennuyait profondément. Il n'y a effectivement pas de chanteur plus ennuyeux et plus surcoté. C'est d'un triste et sa musique d'une pauvreté et d'une platitude. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de vous présenter mes critiques de ce soir quand même. Nelly Caprielion, des Inrecuptibles, Maître Michel Crépu, de la Nouvelle Revue Française, Arnaud Vivian, de la Revue Charles, de Transfuge, de Regard, et avec Frédéric Becbédé de Biarritz, mais également du Figaro Magazine. Toujours dans le courrier à propos de Saison du Voyage de Cédric Gras chez Stock, que vous aviez bien abîmé à la tribune. Sylvie Meyer-Juster est en phase avec les critiques du masque. Je ressens un ennui profond à sa lecture. Je me demande où il peut bien aller chercher ses tournures très old school. Dans quel grimoire de bon père du 19e? C'est insensé l'énergie qu'il doit dépenser pour faire compliqué. Au même Cédric Gras, d'ailleurs, qui se plaint dans son livre d'un tourisme de masse qui folklorise le dépaysement. Eh bien, Monsieur Clopin répond en 2012, j'ai pris le bateau sur l'Amazone et je suis arrivé à la citadelle de Cuelap au Pérou, en rencontrant deux garçons français en tout et pour tout sur 4 semaines de balade. Tout le reste, c'est fait avec les autochtones et le moyen du bord. Il y a donc encore des coins possibles où voyager. Marizian n'a pas aimé que Frédéric, pour défendre le livre Dehors de Yann Moix, l'oppose au dernier livre d'Edouard Louis. J'ai vu dans la remarque de Frédéric la parfaite illustration de l'abandon par la gauche des ouvriers et des classes populaires. Opposer les pauvres aux exilés, faut-il vraiment hiérarchiser les causes? Voilà, oui, non, mais tu as oublié ce que tu dis au masque et la plume. À propos de L'été où tout arriva de Bill Bryson chez Payot, que vous avez encore bien esquinté. Annick Gevel, cher masque mal emplumé, j'aime les livres de Bill Bryson, je trouve qu'il a beaucoup d'humour. Bravo au bon goût de Monsieur Raspienjas, j'ai adoré Promenons-nous dans les bois, où il tente de faire le chemin des Appalaches alors qu'il ne marche jamais. C'est assez tordant. J'espère que les autres critiques du masque se remettront de leurs plumes mal embouchées. Enfin, suite Arnaud feuilleton Bartleby, je crois que ça va durer encore jusqu'à la fin de l'année. Et là, c'est Béatrice Deleuze, mais c'est pas pour toi, c'est pour Michel, de Paris, qui rebondit sur la polémique Bartleby et voudrait que Michel Crépu dise Jane Austen et non Austin. Il y a bien longtemps que je m'insurge contre cette fâcheuse prononciation. Voilà, c'est chose faite. Un poids de moins sur le cœur. N'exagérons pas. Merci en tout état de cause d'être ce que vous êtes, cher masque et plume. Voilà, tu feras attention.
Je vais faire très gaffe.
Hein, pas Austin. D'accord. Allez, on commence. Ça va bien les... Oui, vous êtes en forme. J'ai vu dans la presse, Frédéric, que tu faisais un peu les folies de ton corps.
Entre deux romans de Maëlys de Kerangal,
voilà, c'est ça.
On a le droit de s'amuser.
Oui, il faut dire que ce soir, je vous ai gâté. À son image, chez Actes Sud, c'est le nouveau roman de Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012, pour le Sermon sur la chute de Rome, un roman qui est scandé par les funérailles d'une reporter photographe corse, Antonia, tuée dans un accident de voiture et dont l'oncle et parrain d'ailleurs, qui est prêtre, prononce l'oraison funèbre. Cette photographe, longtemps liée à un militant du FLNC, avait notamment couvert la guerre en ex-Yougoslavie avant de se reconvertir dans les photos de mariage. C'est donc son histoire que raconte Ferrari au rythme des Kyrie eleison, Sanctus Paternoster, Agnus Dei, cher à Michel Crépu. Qu'avez-vous pensé de cette messe, Michel ?
En latin, c'est pas mal, oui. C'est un peu le Bernanos de l'étape.
Le Bernanos de l'étape,
ouais. Oui. Non, mais Bernanos, c'est Bernanos.
Oui, j'allais te le dire.
Je consonne.
L'étape, c'est l'étape.
Mais il y a quelque chose qui... Alors, on peut dire, et je pense, à vrai dire, qu'il y a une énorme maladresse, c'est lourd, c'est plein de choses qui ne vont pas, etc. Mais il y a, en même temps, une intensité, il y a quelque chose qui fait que ce livre a une sorte de violence. Alors, la Corse est là comme un lieu de tout à fait bernanosien, justement, bien que Bernanos n'ait pas campé ses livres.
Non, il n'est jamais allé en Corse. Hein.
Non, jamais. Mais la Corse de Ferrari, c'est un peu les campagnes d'Artois de Bernanos. C'est un endroit où on peut questionner la confrontation de la vie avec la mort. C'est ça que Ferrari, en tout cas, m'a-t-il semblé, essayait de...
Mais tu me dis toujours pas si ça te plaît ou pas.
Non, parce que je ne le sais pas bien moi-même, mais je suis sensible à la recherche d'intensité de cet écrivain. Voilà.
Frédéric ?
Jérôme Ferrari, c'est vraiment, comme tu le dis, c'est l'auteur concerné par tout ce qui se passe de grave dans le monde. Alors là, il y a la guerre en Yougoslavie, il y a les attentats en Corse, le nationalisme corse. Il y a aussi un moment la guerre en Irak qui s'invite à un moment. Mmh. Et ça me fait penser à une blague de Coluche sur Roger Gicquel. Il disait... quand un avion s'écrase dans le monde, c'est sur ses pompes. Et ça fait penser un peu à ça, Jérôme Ferrari. Déjà, le prix Goncourt était comme ça, c'était un sermon, là aussi.
Oui, c'est pour ça que je pensais que ça plairait davantage à...
Oui, mais je comprends pas.
Au père Crépu.
Oui. Non, mais...
Il a dit qu'il aimait l'intensité, quand même. Donc, moi, personnellement, j'en veux beaucoup à Pierre Schill et Zorana Vojinovic, parce qu'à la fin de son roman, Jérôme Ferrari dit que sans ces deux personnes, son texte n'existerait pas. Donc voilà, Pierre Schill et Zorana Vojinovic, merci du cadeau.
Nelly ?
Oui, alors bon, moi, j'ai jamais vraiment accroché avec Ferrari. Je trouve qu'il en fait toujours des caisses. Et c'est pas simplement, comme le disait Frédéric, à juste titre, sur les sujets qui sont toujours très... Enfin, c'est une façon, je trouve, toujours un peu de nous prendre en otage avec des sujets très graves. Et en plus, avec un ton toujours très, très grandiloquent. Là, je trouve qu'il l'a quand même un peu perdu. Je suis mitigée entre... je suis un peu de l'avis de Frédéric et de l'avis de Michel. C'est-à-dire que, en même temps, par rapport à d'autres livres qui vont pas tarder à arriver dans le programme... Là, je me suis dit, c'est quand même un écrivain. Il y a quand même une écriture, il y a quand même un projet, c'est ambitieux, c'est voilà. Malheureusement, j'ai lu déjà sur la photographie de Suzanne Sontag, donc ça, je pense que si on a un peu ses bases sur la photo, là, tout ce qu'il dit sur la photo, c'est un peu une ressucée. Et puis, par ailleurs, bon, moi, c'est vrai, mais peut-être ça n'est que personnel, c'est qu'en 2018, quand il y a un prêtre, j'arrive pas à lire, quoi. Quand on convoque Dieu.
Oh, t'exagères beaucoup.
Quand on convoque Dieu, oui, ou autre chose, tu vois, je n'arrive plus parce que je trouve qu'on est pris, encore une fois, c'est une prise d'otage d'un personnage qui serait donc très spirituel, qui serait.
Je te rappelle d'abord qu'on est en Corse.
Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez académique en fait dans ce personnage. Enfin, il y a une forme d'académisme en fait. Mais, oui. Et pour moi, c'est un peu un roman.
Et puis un prêtre qui est en même temps parrain,
c'est un peu poussiéreux quand même.
Hein, c'est pas impossible.
c'est pas impossible.
Rien ne l'interdit. Ouais.
Un truc qui est compliqué aussi, c'est le roman par rapport au reportage. Or, sur la guerre en Yougoslavie, il y a quand même des très grands reportages.
Ah bah, c'est sûr, mais c'est
notamment Jean Hatzfeld.
Mais ça lui interdit pas non plus d'en parler.
Voilà. Non, mais bien sûr. Mais c'est vrai que ça pose un problème.
Il a envie de faire quelque chose avec tout ça. Enfin, c'est vrai. Que c'est pas exactement au point, c'est loin d'être le cas, mais il a envie d'en
oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un problème que tous les romanciers doivent se poser, et qui est d'ailleurs visible dans cette rentrée.
Qui est alors ce Gaston C? Il l'a complètement inventé, cet écrivain reporter. Parce que moi j'adore cette digression, par exemple.
Ça, je trouve ça assez. Alors Arnaud, qu'en pense-t-il?
Je suis à la fois d'accord avec Michel Crépu, c'est-à-dire que c'est un grand livre sous influence Bernanos. C'est assez rare, finalement, justement, à travers cette figure magnifique de prêtre et parrain qui représente un peu le diable pour cette jeune fille, puisqu'il lui donne tout ce dont elle a envie. Un appareil photo, de l'argent pour partir en reportage, etc. Donc, qui est l'instrument, finalement, de sa malédiction. Le personnage est magnifique, il doit prononcer son homélie. Enfin, il y a quelque chose de vraiment, là, d'une tension. Enfin, moi, je trouve que, je n'avais pas du tout, pas détesté, mais pas aimé du tout le précédent livre de Jérôme Ferrari.
Qui... Tu parles du prix Goncourt, là, du sermon?
Non, celui d'après sur les physiciens qui avaient été exfiltrés en Angleterre, les physiciens de la bombe allemande, de la bombe atomique, qui ressemblaient à Dubon, Éric Vuillard, ce qui est vraiment pas grand-chose. Soudainement, là, il y a quand même, dans ce livre, une espèce de perfection dans la construction, même si tu as raison, hein, quand on a lu Suzanne Sontag, ses réflexions sur la photographie et la guerre, c'est pas d'une grande, grande nouveauté, mais quand même, dans l'art du romancier, ben moi je trouve que c'est pas Jérôme Ferrari qui devrait s'appeler, c'est Jérôme Lamborghini à ce niveau-là. Quoi.
Là, je m'attendais à ce que quelqu'un le fasse, ça, c'est toi.
Voilà.
Oui. On parlait de Jane Austen avant, donc on reste dans les noms de bagnoles.
À son image, c'est donc, c'est pas un très bon titre en revanche, non. C'est chez Actes Sud et c'est signé Jérôme Ferrari. Alors, 4 ans après Réparer les vivants, qui a connu un succès phénoménal, qui a été adapté au cinéma, au théâtre. Maëlys de Kerangal publie donc un nouveau roman, Un monde à portée de la main, chez Vertical, un roman sur le trompe-l'œil, dont la jeune héroïne est Paula Karst. Elle intègre en 2007 l'Institut supérieur de la peinture. Tout ça a l'air tout à fait vrai, hein, à Bruxelles, où elle découvre l'art, comme Frédéric, de reproduire les minéraux, les végétaux, les animaux. Elle va nouer une relation avec son colocataire, Jonas, qui est peintre en décor, et avec une autre étudiante, l'écossaise Kate. Après, elle obtient son diplôme et elle va exercer son métier un peu partout, à Paris, à Moscou, sur le tournage d'Anna Karenine, à Cinecittà, où elle travaille au décor du film de Moretti, Habemus Papam, jusqu'au projet de reconstitution de la grotte de Lascaux, ce fac-similé ultime. Bon, c'est un roman d'apprentissage, il est question du vrai, du faux. Est-ce que, selon vous, les lecteurs qui ont tant aimé Réparer les vivants vont se retrouver dans ce monde à portée de la main, Arnaud?
Ouais, si vous voulez, on commence à comprendre, là, Maëlys de Kerangal, son travail, qu'est-ce qu'elle essaye de faire en tant que romancière. Elle veut être romancière de la technique. Alors, on a eu Naissance d'un pont, on a eu Naissance d'un pontage coronarien, on peut dire, après. Et là, on a Naissance d'un poncif.
Tu oublies un livre sur un jeune cuisinier aussi, qui a publié.
Voilà. Donc, elle s'introduit dans des corps de métier. Mmh. C'est ça, son trip à elle, c'est une espèce de romancière heideggerienne, quoi, voilà, qui s'intéresse à la technique. Donc, c'est un roman technique sur la technique. Parce que le roman lui-même, il est technique dans la phrase. Il est pas, d'ailleurs, c'est dans la phrase. Flaubert disait qu'il y a les romanciers de la phrase, les romanciers du paragraphe, les romanciers de la page. Bon, elle, clairement, c'est une romancière de la phrase. Elle écrit elle-même un roman en trompe-l'œil, avec des choses un peu lourdingues. Hein. Par exemple, son héroïne, elle louche. Donc, elle fait du trompe-l'œil, elle louche, on se dit, tiens...
Elle a un léger strabisme et un regard verrou.
Peut-être appuyé un peu fort sur la pédale, vous voyez. Bon. Mais à part ça, il y a quand même des très beaux passages. À Cinecittà, où elle travaille sur les décors de Habemus Papam de Nino Moretti. C'est quand même une très belle idée. Et donc, il y avait ce côté un petit peu cagneux, on va dire, hein, démonstratif sur l'artisanat est-il un art, voilà, peut-être qu'on peut dire que l'art est la technique, etc. Et donc, ça se termine à l'origine même du monde, ou du monde de l'art, en tout cas, c'est-à-dire dans la grotte de Lascaux. Son premier travail est de faire un ciel dans une chambre d'enfant, et son dernier travail, c'est de refaire, en trompe-l'œil, ce qui est l'origine même de l'art, c'est-à-dire la grotte de Lascaux. Donc, on voit le... Voilà,
on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir enquêté sur cette technique.
C'est plein de mots... je suis tout le temps fourré dans mon dictionnaire, hein, parce que là, il y a un côté...
J'ai appris ce que c'était le portor.
Voilà, donc il y a plein de marbre noir. Mais c'est quand même toujours, évidemment, impressionnant la manière de se glisser comme ça, encore une fois, dans un corps de métier. Et en même temps, ce qui manque là, c'est la pulsion romanesque. Les personnages n'existent pas vraiment. Il n'y a pas le côté même... Elle aborde un petit peu le côté social qui est très intéressant, finalement, de ces artisans spécialisés, mondialisés, parce qu'ils sont tout le temps aux quatre coins du monde sur des projets très précis, qui à Moscou, qui au Mexique, qui dans la grotte de Lascaux. Donc, il y avait une perspective comme ça intéressante, parce qu'ils n'ont pas de vie intime, du coup, ils vont d'un endroit à un autre, comme des espèces de forains spécialisés. Mais tout ça n'est pas creusé, finalement, et tout ça n'existe pas en tant que œuvre d'art. Là, pour le coup, c'est vraiment une œuvre d'art en trompe-l'œil.
Frédéric ?
Je ne suis pas tout à fait d'accord sur les personnages. Je trouve que l'héroïne, elle existe, elle est même assez excitante.
Pour la caste.
Oui, elle est assez libre sexuellement, elle est assez attachante.
Pas exagéré, non ?
Non, mais j'aime bien certains détails observés.
Pas une libertine, non.
Mais
plus.
Tu penses à quoi ?
Non, je trouve que elle se pince les joues pour avoir bonne mine, je ne sais pas. Elle dit qu'en hiver, elle porte une veste à même la peau pour qu'on voit plus de son épiderme. Sexy, quoi.
Tu en parles comme si c'était très osé.
Non, c'est pas. Alors, Jérôme, tu as raison. Mais il faut prévenir les gens. C'est pas un livre porno. Faut prévenir les gens. Bon, cela dit, moi, j'avais jamais réussi à terminer un roman de Maïlys de Kerangal. Bonne nouvelle, j'ai
même
réussi
à terminer. Les vivants.
Non, ouais.
Ah oui?
Non, j'ai trouvé ça trop ennuyeux, c'était pas possible. Justement, les détails techniques, tout ce problème, c'est que les gens maintenant avec Internet, ils ont toute la doc chez eux, donc ils peuvent recopier des pages et des pages de jargon.
C'est pas ce qu'elle
jargon.
Fait, en avis, en plus.
Bon, enfin
ça,
bon.
Ça se verrait, c'est pas du Wikipédia, là.
Du coup, j'avais pas, non. C'est la première fois que j'en finis un, et j'ai beaucoup aimé la fin.
Oui, mais comme tu peux pas la raconter.
Je peux pas la raconter, mais c'est, il l'a déjà raconté.
Oui, il l'a déjà raconté en partie.
Pourquoi on peut pas raconter la fin?
Non, l'idée qu'elle va restaurer la grotte de Lascaux.
C'est comme s'il y avait une fin, cette histoire.
Bah, voilà, il y a une idée. Il y a une idée. L'idée que là.
Mais c'est pas croire aux gens.
Mais c'est un roman, quand même. C'est un roman.
Elle meurt à la fin?
Non, l'idée qu'elle.
C'est du Malraux, c'est du.
Bah, tu devrais lire jusqu'au bout. L'idée qu'à la fin. Non, mais quand, à force d'imiter à la fois la nature, mais aussi les œuvres d'art des autres, peut-être qu'on devient soi-même un artiste. C'est une idée qui est en contradiction avec Oscar Wilde, d'ailleurs. Puisqu'il disait la nature imite l'art, Kerangal dit l'art imite l'art, en fait. Et il se trouve que, bon, il y avait quelque chose, et elle rejoint aussi la vie, la fille repart finalement, devient préhistorique. Bon, maintenant j'ai tout raconté. Enfin, je suis plus épaté que la fois d'avant.
Alors, Nelly?
Non, alors moi, en effet, je n'ai pas lu la fin. C'était pas des blagues, je voulais vraiment savoir comment ça se terminait et si elle arrivait à dire quelque chose, parce que là, je suis quand même affligée par la vacuité et de la littérature et du propos. Moi, j'ai jamais vraiment accroché... Enfin, il y a des livres que j'ai aimés de Maïlys de Kerangal, mais avec toujours une réserve qui est, comme disait Arnaud, cette espèce de technicité où elle montre de façon cagneuse, en effet, qu'elle a révisé, qu'elle a ses fiches.
Qu'est-ce que vous avez contre les cagneuses?
Et je suis... Oui, non, mais quand on est écrivain, on doit plus écrire un livre comme on passe des examens, si tu veux. Voilà, c'est ça qu'on a contre les cagneux ou le bac, ou voilà, où le côté scolaire est appliqué, voilà, qu'on ne veut plus quand on lit un roman. Et là, je trouve que là, c'est une caricature. Alors, non seulement je n'ai jamais compris cette espèce de succès interplanétaire de Maïlys de Kerangal, qui est même recommandé par des auteurs étrangers comme si c'était...
C'est intéressant à comprendre.
Voilà. Non, c'est intéressant à comprendre, je ne comprends pas. Alors peut-être
si
que
le sujet, la technique de réparer les vivants explique parfaitement son succès. Je parle de ce livre-là.
Non, alors pourquoi?
Non, mais si, parce que, non, parce que les gens ont été bouleversés par cette histoire, il faut courir après le temps pour arriver à,
oui,
à
puis
faire
le,
une greffe.
Le rapport psychologique avec, le, avec les gens qui doivent donner...
Oui, d'accord, mais enfin, pareil, enfin, il y avait, enfin, c'était un peu... Ça n'était un peu que ça.
Puis ça n'avait jamais été fait.
Non, mais pareil, c'est... Voilà. Moi, je pense que là, par exemple, elle aurait pu écrire un article. Enfin, c'était un article sur... Elle a passé un mois en stage avec des peintres de trompe-l'œil.
Ça, tu peux dire ça de beaucoup
non,
de livres.
Non, franchement, hein. Bah, hélas, on le sait. Et au masque, souvent, d'ailleurs. Non, franchement, Jérôme, tu n'es pas d'accord avec
mais
moi.
C'est un
écrivain... Je sens que tu as aimé plus que moi.
Ah non, mais moi,
tu
je suis...
Il y a
un
truc...
Je suis un modeste
neutre.
Animateur.
C'est l'écrivain du comment, pas du pourquoi, du comment. Comment on répare les gens, comment on fabrique un pont...
Voilà, comment on peint des trompe-l'œil avec des listes toutes les
côté presque mode
listes,
d'emploi de...
Des listes de peintures, en effet, qu'on peut acheter. Ensuite, on peut aller acheter le bleu de ceci, le blanc de
ceci. C'est
ça.
Vrai qu'il y a un côté bricorama quand on
Il y a un côté
livres.
Bricorama. Arnaud, à vous.
Oui, mais elle non, va faire tous les métiers. Peut-être le prochain, ce sera la cordonnerie,
oui,
après la
vrai.
Boulangerie.
Et pourquoi pas.
Ou peut-être
pourquoi
écrire. Pas. Ou peut-être écrire. Michel.
Ben moi, je trouve que ce livre relève d'une démarche qui m'intéresse. On peut absolument... Je partage pas mal de choses qui viennent d'être dites. Mais le projet m'intéresse. Cette façon d'aller, comme ça, on part d'une chambre d'ado, c'est tout juste, il n'y a pas encore les pluches, et on arrive à Lascaux via un certain nombre d'épisodes qui sont finalement assez banals, enfin de vie d'étudiant, comme à la Villa Médicis. Ou...
Enfin, les tournages, par exemple, ne sont pas banals.
Oui, mais enfin, ce sont des choses qui sont pas, il n'y a pas non plus de quoi se relever la nuit, mais l'ensemble du livre, qui est plein de choses qui m'ont gêné, qui m'ont un peu ennuyé, malgré tout, montre une démarche qui reste à mes yeux intéressante. L'histoire de la technique, traitée dans le champ du roman, en France, ben, je dis qu'elle est pratiquement toute seule à essayer de le faire. Donc,
quand Michel défend un livre, il donne envie de se suicider.
Pourquoi c'est intéressant, Michel, de parler de technique,
mais parce que la technique est en train de... Enfin, je vais dire une énorme banalité, mais la technique est devenue le fait de l'existence toute seule. Enfin, on ne vit plus que dans la sphère de la technique. Donc, ça me paraît normal, à la limite, enfin, compréhensible, qu'un écrivain comme Maïlys de Kerangal ou d'autres, je ne connais pas les autres, essayent de faire quelque chose avec ça.
Si, peut-être bon, Aurélien Bélanger, peut-être un peu.
Aurélien Bélanger, oui. Laurence Cossé l'avait fait avec,
très bien, avec la,
avec la Grande Arche.
Oui,
la Grande
ça, Arche, c'est ça, c'était autre chose.
Alors là,
oui,
c'est un monde à portée de la main, je suis pas convaincu que ça aura le même succès que Réparer les vivants. C'est chez Vertical et c'est donc le nouveau roman très attendu de Maëlys de Kerangal. 12 ans après son premier roman, il est vrai qu'entre-temps, elle a été ministre de la Culture et députée E. Aurélie Filippetti revient dans tous les sens du terme à ses premières amours, Les idéaux chez Fayard. Est en effet un roman à la fois politique et sentimental. L'histoire se déroule au Palais Bourbon. Les députés de gauche, lui et de droite, tous les opposent. Et pourtant, ces deux cadras vont s'aimer clandestinement. Elle vient du peuple et de l'Est industriel. Lui, c'est de l'aristocratie et de l'Ouest résidentiel. Je la cite, il partage la même langue, mais ne la parle pas de la même manière. Il finit par entrer au gouvernement avant de s'engager dans une association humanitaire et elle, elle va finir par devenir, dans un autre gouvernement bien sûr, ministre de la Culture. On reconnaît ici sans mal le couple conformé, d'ailleurs officiellement un temps, Aurélie Filippetti et le chiracien Frédéric de Saint-Cernin. C'était avant Montebourg, hein, pour ceux qui seraient un peu perdus. Saint-Cernin, qui fut ministre de Raffarin. Là, il faut vraiment être abonné à la rue Charles pour tout savoir exactement.
On a interviewé Frédéric de Saint-Cernin.
Sur Filippetti ?
Non, sur Jacques Chirac. Oui, c'est un grand chiracien.
Bref, un roman qui, du crash de 2008 aux attentats de 2015 et du sarkozysme au hollandisme, le hollandisme, il en prend plein la gueule, hein, n'est pas tendre pour la réelle politique et se termine par cette question. Comment la gauche a-t-elle pu échouer à ce point avec les classes populaires? Quant au titre, donc les idéaux, ben il m'a rappelé le mot que public, d'ailleurs, que Filippetti a écrit à Hollande quand elle a quitté la rue Devaloy en 2014. Je cite un extrait. « Je choisis pour ma part la loyauté à mes idéaux ». Les idéaux chez Fayard, Aurélie Filippetti, Frédéric?
Le premier roman d'Aurélie Filippetti était intéressant. C'était une découverte de Jean-Marc Roberts.
Oui, mais les deux premiers même.
Les derniers jours de la classe ouvrière, où elle parlait de ce que c'était d'être fille et petite fille de mineurs immigrés italiens en Lorraine. Donc ça fait d'elle une sorte d'Édouard Louis, un peu Édouard Louis qui serait devenu ministre de la Culture, ce qui est assez intéressant.
Édouard Louis qui serait devenu ministre.
Mais oui, parce que c'est ça, c'est une fille d'une origine sociale. Qui arrive. Bien sûr, ça se pourrait. Bien sûr, ça se pourrait, bien sûr.
Je vous laisse, je vais me suicider.
Et donc, vous voulez qu'on parle de la forme ou du fond?
Parce qu'en fait, c'est
le regard de quelqu'un qui vient d'une classe sociale qui, selon elle, ne correspond pas au pouvoir et qui se sent inapte, pas respectée, pas comprise, qui n'arrive pas à être au pouvoir. Il n'arrive pas à comprendre comment ça marche, le pouvoir et la politique. C'est quand même un sujet très important. Le problème, c'est qu'à mon avis, sur le fond, c'est extrêmement naïf. Il y a beaucoup de pages où c'est limite Bécassine au milieu des méchants qui sont pas gentils.
Bécassine
est plus fine. D'accord. Et puis, formellement, stylistiquement, il y a des tas de moments où ça va pas du tout, quoi. Je prends, dès le départ, alors il y a un type qui vient, mais il a une ponctualité ondoyante.
C'est un peu ce que tu as, toi.
Non, c'est Arnaud. Non, c'est Arnaud.
Toi, t'as une ponctualité ondoyante.
Arnaud, il a une présence variable au masque et la plume. Bon, bref. Genre, un autre moment, elle décrit l'Assemblée nationale. C'est donc le lieu où on fait les lois et considère, et c'est une belle idée, que c'est violent de faire des lois. C'est une forme de violence. Et elle dit, mais quelle autre violence n'aurait-elle été pire? Bon, c'était plus simple de dire, mais c'était la moins pire des violences. Je veux dire que
là, on est dans le couloir de la mort. Là.
Et en fait, le problème de ça, c'est qu'Aurélie Filippetti, qui est vraiment, je pense, avait réussi ses premiers romans, qui était quelqu'un de sincère et que je respecte, je pense que la politique lui a fait du mal, y compris à son écriture.
Politique qu'elle a totalement quittée, hein, je vous rappelle.
Oui, mais ça a abîmé son écriture. C'est là où c'est grave. C'est qu'à force de fréquenter ces cons de technocrates et les lobbies et d'être insultée sur les réseaux sociaux et dans la presse, elle écrit maintenant comme si elle était...
Mais tu ne parles pas du tout de l'histoire d'amour, quand même, comment aimer quelqu'un qui n'est pas de son bord politique.
Elle est malheureusement aussi nunuche que les considérations politiques.
Bon, Michel.
Alors, effectivement, il y a quand même quelque chose de curieux, c'est que les deux livres précédents étaient intéressants. Et là, la question qui se pose, pour moi, la seule question qui se pose, en restant correct, c'est comment est-ce qu'on peut foirer à ce point un livre.
Vous exagérez quand même, non?
Écoute, moi je trouve, enfin, la question de la politique et celle de l'amour sont deux choses qui sont une matière merveilleuse et je ne comprends pas.
Les illusions perdues.
Mais oui, non, mais enfin, il n'y a pas mieux pour un écrivain que de travailler cette matière et d'en faire quelque chose. Et là, c'est catastrophique. Les deux exemples que Frédéric a donnés ne sont que des reflets de la vérité générale de ce livre, qui est vraiment mais très mal écrit.
Enfin, sur le fond, ça vous a pas intéressé, par exemple, la manière dont, quand on est fidèle à ses idéaux, on souffre beaucoup aussi de devoir.
Mais oui, non, mais la thématique, elle est tout à fait.
Ah bon ?
Moi, je suis tout à fait intéressé. Je suis tout à fait prêt à lire 500 pages sur cette affaire. Mais là, c'est ennuyeux, c'est lourd, ça ne va pas.
Je crois qu'elle a manqué de cynisme en politique. Elle déteste les cyniques. Mais malheureusement, en politique, François Mitterrand a montré qu'on pouvait être de gauche et cynique, et que c'est comme ça que
ça a été le début de la fin aussi, quand même.
Et envoyé de très mauvais
exemples, ça.
Non, mais c'est le sujet.
Non, moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je trouve que c'est un livre absolument puissant. Voilà, je trouve que c'est un livre très très fort, et je trouve que sa force. Et Michel, tu peux pas défendre quand même cette mièvrerie platissime qu'est le Malice de Kerangal et aplatir ce livre-là. Là, c'est pas possible. Là, on n'a pas du tout lu.
Désolé, ça n'a absolument rien à voir.
Si, ça a à voir, c'est que il y a un souffle, il y a un propos, il se passe quelque chose. Oui, absolument, souffle, et je trouve une puissance littéraire. Non, absolument. Et je trouve que c'est de la littérature, et c'est sa force, car elle aurait fait juste un récit ou quelque chose qui s'apparente à un essai ou juste un manifeste.
Je t'accorde
là,
que sa force,
elle en
c'est
fait
son
de
sérieux.
La littérature.
Elle est horriblement
elle en fait
sérieux.
Mais comme beaucoup de gens qui ont quelque chose vraiment à dire, je suis désolée. Pourquoi on devrait mettre des blagues sans arrêt dans les livres?
Mais Nelly, bien sûr qu'elle a quelque chose à dire. Mais bien sûr.
Franchement, non,
mais
je
pourquoi
trouve
est-ce qu'elle
ce
n'y
livre,
pas
Non, c'est je tout. Trouve ce livre très très fort.
Elle a quelque chose à dire, en effet.
En effet, elle a payé le prix de son manque de cynisme. Mais est-ce qu'on peut lui reprocher? Alors, on peut dire, oui, elle était naïve. Quand on accède à ce niveau, il faut être cynique, il faut penser à sa carrière, il faut gérer. C'est ce qui est en train de faire mourir la politique aujourd'hui en France. On arrive avec Macron, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, voilà. Donc, on est là à regretter qu'elle n'ait pas été, au fond, Macron. Voilà. Est-ce qu'il faut vraiment le regretter? Je ne suis pas sûre. Il y a des scènes fortes quand elle rencontre un financier qu'elle appelle le grand argentier, qui lui fait comprendre qu'en gros, elle lui appartient, le ministère de la Culture lui appartient, qu'elle doit faire ce qu'elle veut parce que celui qu'elle appelle le prince, alors contrairement à Édouard Louis, elle ne donne aucun nom, elle en fait une espèce de fresque absolument universelle du pouvoir, ou plutôt de quelque chose d'absolument délétère, qui est quand le pouvoir prend le dessus sur la politique, et quand chacun gère sa peau, et chacun gère sa petite carrière. Ouais. Est-ce qui s'est passé avec ce gouvernement de gauche?
On a la période Sarkozy, on a la période Hollande.
Oui, non, mais on les reconnaît. Visible, hein. Mais par exemple, le grand argentier, on n'est pas sûr. Je pense que là, par exemple, c'est un composite.
Ah oui, j'ai cherché, j'ai enquêté,
très ambitieux secrétaire d'État. Moi, je croyais que c'était Macron. Enfin, je pense que c'est Cahuzac.
Oui, c'est possible.
Je suis pas sûr.
Et alors,
que ce
et so what
Macron.
On ne sait pas.
Non, mais là, on se comprend avec Arnaud. Excuse-moi, j'ai un moment avec Arnaud. Tu ne vas pas le gâcher. Non, Arnaud,
mais
t'as aimé le livre ou pas?
Arnaud n'a pas encore parlé. Hein.
Oui, bah oui, mais je donnais la parole à Arnaud.
Ah bon,
bah,
Arnaud.
Moi, j'ai hâte.
Non, mais
moi,
si tu veux m'appeler. Tu fais, hein. Bon, alors Arnaud.
Ouais. Bon, mais moi aussi, évidemment, j'ai ricané bêtement en lisant certaines phrases. Il y en a une qui me fait rire encore, c'est les kilomètres défilés comme des chevaux au galop. Si vous voulez, là, évidemment, j'en
même moi, j'aurais pas osé.
Évidemment, quand vous lisez ça, vous riez. Mais, au bout d'un moment, vous ricanez plus du tout en lisant ce livre.
Non, c'est terrifiant.
Parce que c'est terrible. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Nelly. Ouais. Ce livre, il était, elle lâche vraiment ses coups. Elle raconte cette histoire qui était connue avec Frédéric de Saint-Cernin, mais qu'elle nous montre quand même de leur côté comment ils l'ont vécu. C'est-à-dire, dans l'incapacité au début.
Sans pouvoir la vivre, en fait.
Oui, de pouvoir la vivre, d'oser le dire, pensant que ça allait choquer, que ça allait être mal compris, alors que, on voit très bien, et ça m'a fait penser à un livre publié l'année dernière qui s'appelait « Les Républicains » de Cécile Guibert, qui était un petit peu sur cette même idée. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'en France, depuis toujours, et ce qu'on vient de vivre pendant l'été n'est que la démonstration de ça, qu'il y a toujours eu deux camps en France, qui n'est pas la droite et la gauche, mais les démocrates et les républicains, qui n'ont rien à voir avec les démocrates et les républicains au sens américain, qui sont dans une espèce de pôle inversé. Et tous les deux, finalement, ce sont des républicains. Ils sont tout simplement, ils sont pas de droite et de gauche aussi. Il est catho, elle est athée. Ils ont des discussions et tous les deux se confrontent à la réelle politique. Aujourd'hui, Frédéric de Saint-Cernin s'est reconverti dans l'humanitaire.
Lui aussi a quitté la politique.
Il a totalement quitté la politique et s'est reconverti dans l'humanitaire. Elle a abandonné aussi la politique. Mais là, les portraits qu'elle fait.
Maintenant, elle enseigne. D'ailleurs, elle enseigne à Sciences Po.
Oui, le portrait qu'elle fait de Hollande devenu président, il est terrible. Et elle lâche vraiment ses coups. Elle y va. Le portrait qu'elle fait de Fabius, encore une fois, elle ne dit aucun nom, mais tout le monde est évidemment reconnaissable, à part ce grand argentier qui, c'est pas simplement qui lui dit « tu es à moi, ma chérie », parce qu'il l'appelle comme ça, hein.
La ministre, il l'appelle «
ma chérie », mais c'est qu'il veut récupérer un bien que l'État est en train de vendre. Il veut pas que ça tombe autre part que dans son escarcelle. Ce qui montre quand même, voilà, les combinaisons à l'œuvre dans le pouvoir exécutif.
Parenthèse, tu remarques que les noms, elle ne les donne qu'à un moment donné, c'est quand elle arrive au Festival de Cannes, juste après avoir été nommée ministre de la Culture. Et là, on a tous les cinéastes, tous les films qui étaient à l'affiche l'année, effectivement, de
sa nomination. Elle écrit deux pages, puisque c'était, ça faisait partie de son périmètre, comme on dit, de ministre. Deux pages sur la presse, où elle dit comment on a tué la presse, comment l'État a tué la presse, empêché que les journalistes s'organisent en coopérative. C'est absolument magnifique. Il faut lire ces deux pages pour comprendre ce qui s'est passé à cette époque, celle où elle était au pouvoir, et c'est le moment où ces journaux, les grands journaux, la plupart des grands journaux, sont tombés dans l'escarcelle de grands argentiers dont tout le monde connaît les noms.
Oui, mais tu vois, c'est dans la Frédéric. Deuxième partie du livre.
Oui, c'est dans la
plus intéressante parce qu'elle
elle est plus intéressante parce que c'est elle
une
qui
observation des coulisses.
Oui,
ça c'est vrai que c'est
et
bien.
Même lorsqu'elle devient, elle démissionne, qu'elle devient députée frondeuse, il y a des choses très intéressantes sur les lois qui ont failli être votées, celle de la
Chambre. Oui,
c'est un regard romanesque de l'intérieur.
Là où il y a son, sa vraie expérience,
avec une histoire d'amour
pages.
Entre deux qui, excuse-moi, moi je trouve très touchante parce que on sent que là aussi elle dit vrai. Et le dernier mot du livre, c'est amour.
Mais non, ce qui est bouleversant, c'est qu'ils s'entraident entre eux. C'est quand même deux adversaires.
Avec cette idée que, quand même, à un moment, il faut y aller.
Elle se sent plus proche de ce type de droite plutôt que de son gouvernement de gauche.
C'est vrai que c'est maladroit, que le style est un peu pâteau, mais l'énergie est telle et la volonté de raconter est telle. Que, quand même, il se passe quelque chose.
C'est à lire. Je pense que tout le monde doit le lire. Je trouve que c'est un réflexe démocratique de lire ce livre. Il faut savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est joué à ce moment-là.
Frédéric et Michel sont bouche bée, là.
Je
pense qu'elle aurait mieux fait d'écrire un essai. Un manifeste,
parce que l'histoire d'amour, encore une fois, elle est magnifique.
Il y a une noblesse d'âme qui est très très belle.
Et des deux côtés, hein, le type, il a l'air chouette.
Écoutez, sur ce mot,
on aimerait voter pour lui.
Qui est digne d'un grand critique, quand même. Le mec, il a l'air chouette. C'est donc Les idéaux chez Fayard d'Aurélie Filippetti. Revient chez Grasset un roman de Samuel Benchitrit, l'auteur des chroniques de l'asphalte, le cinéaste de Janice et John, l'ex-mari de Marie Trintignant, qui s'est marié cet été, j'ai lu ça dans les journaux, où il y a beaucoup de Frédéric Becbédé également, avec Vanessa Paradis. Tu étais au mariage peut-être ?
Non.
Regret.
Oui,
son personnage est un écrivain en panne d'inspiration, surtout depuis que son fils est parti faire le tour du monde. En plus, il ne trouve plus d'exemplaires de son roman précédent, qui s'appelait Béton armé, il faut dire que c'est pas un titre charmant, auquel s'intéresserait ou s'intéresse un producteur. Le seul exemplaire se trouve dans une maison de retraite où il va donc rencontrer l'amour, non pas avec une comédienne chanteuse, mais avec, je cite, une infirmière bègue dont les silences sont des poèmes. On dirait un peu un message de Londres, hein, une infirmière bègue dont les silences sont des poèmes. Alors l'éditeur l'éditeur Grasset préconise de suivre Benchitrit les yeux fermés. C'est une promesse de bonheur, mais lire les yeux fermés, ça ne le fait pas vraiment. Mais voilà, reviens chez Grasset, Samuel Benchitrit.
Ils ont vraiment écrit les yeux fermés ?
Ah oui, bien sûr, oui. Et il dit, il faut suivre Benchitrit les yeux fermés. C'est une promesse de bonheur. Et j'ai essayé à un moment donné, mais j'ai plus vu de livre.
Mon interprétation, c'est que c'est un lapsus, un acte manqué plutôt. Non, le problème, c'est que alors depuis que j'ai pris ce livre en main, on me dit, ah, mais il est tellement sympathique, Samuel Benchitrit, il est tellement gentil, tu peux pas en dire du mal. alors.
Et puis il a fait un bon mariage.
Il paraît qu'il est très sympathique. Non, mais pour moi, c'est un scénario. Enfin, c'est le scénario d'une série. Il y a déjà les personnages sont des poncifs. Une série sur TF1, plutôt. Il y a plein de dialogues. Il y a trois lignes de description. Puis oui, dialogues.
C'est à peine écrit.
Des dialogues rigolos. C'est des vannes.
C'est à peine écrit.
Et moi, je suis. Non, mais oui. Et puis, je suis toujours un
presque
peu.
Presque dessinée, quoi.
Surprise que des gens. Enfin, un peu comme Élise de Kerenvien, je me dis toujours. Qu'est-ce qui leur a donné envie d'écrire ce livre, quoi, de consacrer quand même du temps, de c'est quoi le propos, c'est quoi le pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent nous transmettre, enfin bon. Et là, je trouve, moi, ce qui me sidère, c'est justement, ayant suivi, moi aussi, Jérôme, dans la presse, le mariage avec Vanessa Paradis, je ne comprends pas cette envie de travailler sur quelqu'un qui serait à ce point un loser, presque un personnage d'Emmanuel Beauve, sans avoir ni la grâce ni la poésie d'Emmanuel Beauve, alors que Ben Jethrit, c'est quand même tout lui réussi. Enfin, il a été avec Anna Mouglalis, sublime actrice, il est maintenant avec Vanessa Paradis, c'est pas un vieux célibataire qui s'est fait larguer, il publie où il veut quand il veut, il a écrit plein de livres, voilà, donc je ne comprends pas
donc
pourquoi.
Donc tous les romans doivent être autobiographiques?
Non, pas du tout. Non, qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce roman qui... Je pense que tous les très très bons romans, juste les bons romans, ont quelque chose qui est... on sent une sincérité, voilà, on sent une urgence de l'auteur de dire quelque chose qui le travaille. Et là, j'ai l'impression que ça ne le travaille pas tant que ça, c'est... Je me trompe peut-être, voilà, que c'est fabriqué.
Je trouve qu'il y a du charme. Il y a du charme, mais c'est parce qu'il a des influences, en fait, comme il n'a pas fait Cagne et Hippocagne, il a des influences d'autodidacte. Il a beaucoup lu John Fante, Richard Brautigan, Charles Bukowski.
Oui.
On le sent qu'il aime bien les personnages de loser, alcoolique, qui fume ses cigarettes, qui a un lave-linge qui tombe en panne, et puis il parle des cons qui ont besoin de mettre des coques sur leur portable, et puis il parle de son fils qui est parti, et il est seul, et il boit, il est triste. Quand on a des enfants et qu'on envoie des SMS qui répondent pas, franchement, Chloé, t'exagères. Bref, et ça fait penser à Nicolas Rey, à Philippe Génada, ce genre d'écrivains. C'est des écrivains qui sont... Oui, ils racontent peut-être pas des histoires... incroyable, mais en même temps, il y a un ton, il y a une mélancolie.
Enfin, les derniers bouquins de Génada, c'était des sacrés.
Oui, c'est vrai, parce que depuis trois livres, maintenant, il fait des faits divers. Mais je parlais du Génada des débuts, le chameau sauvage, tout ça. Et moi, je crois qu'il y a une place en France pour des écrivains comme ça, avec du charme, de l'humour. Moi, j'ai souvent beaucoup ri quand il parle il regarde un programme sur TF1, je sais pas s'il existe, où il y a des mariés qui comparent leur mariage et qui mettent des notes à la robe de mariée des autres. Donc c'est toujours 4 sur 20, 2 sur 20. Et à la fin, on les réunit et on leur montre ce qu'ont dit les concurrentes. Et donc elles se mettent évidemment à se détester alors qu'elles se croyaient amies. Enfin, il parle très bien
d'un sujet qui n'a pas été traité beaucoup en
alors,
littérature.
Détrompe-toi, c'est très important.
Oui, mais je sais bien. Non, mais je dis jusqu'à maintenant,
ça a été traité par Virginie Despentes dans Vernon Subutex. Elle disait que ces jeux de télé-réalité développent une idéologie de la compétition et de la méchanceté. Et justement, on revient au livre de Philippe Etis sur l'impossibilité de l'idéal et sur le règne du cynisme et de la concurrence. Et ben voilà. Et ben tu vois que Ben Jethrit, lui aussi, il a un message politique.
Arnaud.
Bon, déjà, le coup de la panne, quand les romanciers la font, ça donne rarement des livres de...
Ça a été beaucoup fait, d'ailleurs, en littérature.
Oui, ça a été beaucoup fait. Ça donne rarement des chefs-d'œuvre, hein, faut être clair là-dessus. Cela dit, non, c'est vrai, mais pour la raison même, c'est-à-dire que quand on fait le coup de la panne d'aspiration, ça peut pas donner un chef-d'œuvre à l'arrivée. C'est dans la forme, c'est impossible. Et il y a un peu de ça. Et du coup, le livre est léger. Il est léger au bon et au mauvais sens du terme. C'est vrai que, voilà, à un moment, il décrit sa bibliothèque, qui est vraiment une bibliothèque d'autodidacte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a une analyse sociologique à faire de la bibliothèque de Ben Jethrit, telle qu'il nous l'a décrit, où il y a effectivement Brautigan, mais aussi Duras, Conrad. Enfin voilà, il y a des écrivains comme ça. On voit comment Martin Eden. Et il y a un livre qui est devenu très très important pour toute une génération. C'est très intéressant à remarquer ça.
Oui,
c'est un beau livre sur ce qui est devenu aussi la littérature en tant que produit. Il est quand même question de... Il y a un auteur de best-seller qui revient comme un running gag. Lui, il n'arrive plus à trouver son livre. Il le commande sur Amazon. C'est vraiment un livre assez cruel.
D'où la maison de retraite.
Cruel sur Amazon. Sur l'idée de... Et l'éditeur, le rôle de l'éditeur. Enfin, tout ça, l'argent, évidemment. Parce que pourquoi il écrit un livre? Mais pour l'argent, pour produire, pour être là en tant qu'écrivain, exister en tant qu'écrivain. Donc, il y a l'air de rien sous ces têtes de blagounette de... Il y a un truc assez marrant sur l'iPhone, hein, où il dit bientôt, il n'y aura plus nos dates de naissance et de mort sur nos tombes, il y aura iPhone 5, iPhone 41. Quoi. Il est né sous l'iPhone 5, il est mort sur l'iPhone 41. Trouvez... On revient là au thème de la technique. Bon, mais quand il y a des blagues comme ça,
vous trouvez vraiment que ça fait un livre,
bah, ça fait pas un livre, mais ça se lit en deux heures. Et c'est un Paris-Lyon parfait, quoi. voilà. Je voulais que je vous dise, quoi. Ou un Paris-Brest, comme on disait autrefois.
Michel ?
Mais oui, mais je suis d'accord. C'est une petite chanson, ce livre. Moi, j'ai toujours dit des horreurs sur Ben Chetri Thomas, toujours. Et là, j'avoue que j'ai été effectivement sous charme. Non, je suis pas d'accord avec l'histoire avec Blanchot, le prétendu Blanchot qui fait, comme on a tous eu, vient à mon aide pour nous soutirer de l'argent. Alors, il se laisse prendre au truc et c'est assez drôle. C'est assez drôle, c'est assez léger, c'est une petite chanson et c'est bien plaisant, voilà.
Merci, Michel, de ce jugement critique fort sur cette petite chanson qui revient donc chez Grasset de Samuel Benchetrit.
C'est un titre de chanson, revient, c'est un titre de chanson.
Voilà.
C'était Marcel Amon.
C'est ça, Marcel Amon maintenant, on en est là.
Je ne sais pas s'il faut être défendu. Hein. Être défendu par Michel, je ne sais pas si c'est un service. Quoi.
Oui, parce que tu vois,
c'est vrai, franchement.
Lisez le nouveau Benchetrit, c'est Marcel Amon. Je suis pas sûr que les gens vont se jeter dans les librairies, tu vois.
Mais plus personne ne sait qui était Marcel Amon.
Protestation du public.
Michel, on peut épouser Vanessa Paradis et savoir qui est Marcel Amon quand
moi
même.
Moi je sais.
Allez, rapidement pour finir, Le Guetteur chez Stock, le deuxième roman de Christophe Boltanski après La Cache, qui lui a valu le prix Femina en 2015. Et là, Boltanski prolonge avec ce geste, sa geste familiale, puisqu'il fait le portrait de sa mère. Femme assez étonnante, enfermée chez elle, ancienne militante contre la guerre d'Algérie, elle dort sur un matelas, même le sol, elle fumait comme un pompier, elle développait une paranoïa aiguë, elle n'arrêtait pas surtout d'écrire des ébauches de polar. Quand je dis ébauche, elle s'arrêtait à la 6e page, et bien sûr, elle ne finissait jamais. C'est donc sur elle que ce narrateur grand reporter enquête, et il remonte dans le passé de cette femme, très engagée à gauche, et découvrant après sa mort ce fameux dossier rempli de mini, je dis bien de mini, série noire. Arnaud ?
Non mais, Christophe Boltanski, excusez-moi, mais c'est vraiment l'âne de Buridan qui hésite entre le journalisme et la littérature. Et à la fin, le livre, il a le même destin que l'âne de Buridan. Hein. C'est-à-dire que, à force d'hésiter entre l'un et l'autre, eh ben, il finit par crever. Le livre, là, c'est pas possible. Là, pour le coup, c'est vraiment pas écrit. Moi, quand je lis une phrase comme « Je poussais la porte de mon imagination », je me dis que l'imagination, c'est un peu comme une porte tambour. Hein. Quand il y en a un qui rentre, il y en a un autre qui sort. Et quand en plus, après, il rentre dans un café, ayant poussé la porte de son imagination, il rentre dans un café et qu'il voit la patronne qu'il décrit comme la chef d'orchestre des percolateurs, là, j'atteins mon point limite et je m'en vais.
Mais tu ne trouves pas que ce personnage, cela dit, est très...
Mais bien sûr, alors
fort,
évidemment, comme on dit...
quand même.
C'est bien ça le problème, hein, c'est que si Boltanski était à la hauteur de l'affaire, qui n'est pas là une petite affaire, mais c'est sa mère, voilà... Moi, je suis très heureux de rencontrer Madame Boltanski, enfin, feu Madame Boltanski, de la connaître. Elle avait l'air d'être un personnage paranoïaque très, très intéressant. Mais et pour ça, il faut être Patricia Highsmith pour vraiment raconter une personne comme ça, qui écrit des débuts de polar, qui se croit espionnée, qui paye des gens, voilà. Qui mais encore une fois, voilà, il faut être Patricia Highsmith, mais pas Christophe Boltanski.
Frédéric,
alors, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est un très grand livre. J'ai été extrêmement, extrêmement ému et j'ai complètement marché du début à la fin. Alors, ce qu'il faut comprendre. C'est pas ni du journalisme, ni de la littérature, c'est une installation d'art contemporain. Parce que c'est le neveu de Christian Boltanski qui fait des dispositifs.
Pas gentil pour son nom.
Et je trouve que c'est un peu du même ordre d'idée. Un chapitre sur deux, on est fin des années 50, début 60, c'est la guerre d'Algérie, et il y a cette femme qui milite pour le FLN, qui prend des risques avec son futur mari, etc. Il complote, et il y a des morts, il y a des attentats dans Paris, et tout ça. Et ensuite, c'est une enquête sur sa mère, seule, devenue folle, habitant...
Qui est proche de l'enquête qu'il avait menée dans la cache, vous
exactement,
rappelez,
hein. Qui était le même genre enquête de dispositif. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un peu... Oui, c'est une littérature un peu comme les vides-greniers, où on regarde, on enquête dans les... C'est très modianesque, au fond. C'est une enquête floue et étrange sur quelqu'un de...
Ça aurait pu, oui.
Sur quelqu'un qui est assez universel, parce que le personnage, aujourd'hui, je suis désolé, dans notre société, de la femme seule, c'est un excellent sujet. C'est un sujet très important aujourd'hui les femmes d'un certain âge qui sont toutes seules dans leur dans leur appartement.
Ah ben on sait ce que tu vas écrire la prochaine fois. Alors.
Mais je trouve que non. En tout cas, je ne sais pas si j'en serais capable. Mais lui, il a réussi ça. Il a vraiment traité ce sujet. Elle devient complètement tarée. Il y a des moments hallucinants. Elle paye effectivement un détective privé pour enquêter sur le créateur de Barbapapa, Talus Taylor, qui était son voisin d'en face. Oui, elle avait perdu la boule, et je pense que ce qu'il y a de bien, c'est que, le livre est enserré entre ces deux époques, la guerre d'Algérie et aujourd'hui, ou enfin en tout cas il y a quelques années.
Et puis encore une fois, ces débuts de polar qui sont,
Sont un peu... Il y a une pression des deux côtés, et à la fin, on comprend pourquoi, on comprend peut-être qu'elle est devenue folle, parce qu'elle avait vécu des choses au moment de la guerre d'Algérie, très douloureuse ou très difficile. Non, parce que ça, je raconte rien, mais je dis qu'il y a du suspense. C'est un vrai thriller, le bouquin. Moi, j'ai tourné toutes les pages et plus facilement qu'Aurélie Filippetti, monsieur.
Pour moi, c'est le plus beau livre de la soirée, là, incontestablement.
Ah. Mais tu peux le dire avec un peu de joie, parce que dans ce cas-là. pour une fois que t'en aimes un, dis-le avec un peu de joie.
Alors.
Évidemment.
J'ai apporté mes guitares. Non, c'est un très beau livre, évidemment, c'est un très beau livre. Alors, il y a deux choses, il y a au moins deux ou trois choses même qui se superposent dans ce livre et qui font sa beauté. C'est la guerre d'Algérie, c'est le portrait d'une femme en tant que telle qui n'a pas forcément besoin du décor de la guerre d'Algérie pour exister, mais qui est là. Et puis, il y a effectivement cette espèce de côté Modiano, mais en plus méthodique. Arnaud évoque l'âne de Buridan, je comprends bien, je suis pas éloigné d'être d'accord avec lui, mais c'est pas très grave d'être à la fois journaliste et écrivain.
D'être l'âne de Buridan. Ouais, on s'en sort.
Non, mais ça l'intéresse de creuser cette ligne. Moi, je trouve que ça me dérange absolument pas.
Ça te gêne pas quand c'est Truman Capote ou Hemingway qui fait ça?
Truman Capote.
Ou Norman Mailer.
Tu crois que Truman Capote a confondu la littérature et le journalisme?
Il a
hésité entre littérature et le journalisme.
Problème,
il en a fait une symbiose absolument magnifique.
Non, mais c'est le
il a élevé le journalisme à hauteur de littérature et la littérature à hauteur de journalisme.
Mais 200 fois le plus grand et le plus grand livre de la littérature américaine.
Oui, bien sûr. Oui, je suis en train de dire ça, oui.
Bien sûr. Et Boltanski, il a le droit d'essayer de faire quelque chose avec ça.
Merci, Nelly.
Non, moi, je ne me suis pas du tout posé la question. C'est marrant, ni du journalisme d'un côté, ni de la littérature de l'autre. J'ai tout simplement été assez jalouse, en fait, de Boltanski, qui, après avoir passé sa vie à aller très, très loin à travers le monde pour écrire ses articles et ses reportages, en tant que grand reporter, finalement, avait une matière incroyable sous son nez et chez lui.
D'où la cache,
trouve, alors d'un côté,
fois.
Voilà la cache avec l'histoire de ses grands-parents, et puis il tourne la tête. Ah, sa mère, tiens, c'est un magnifique personnage de roman. Moi, j'ai trouvé ce livre qui me faisait peur au début, parce que l'histoire des mères folles, j'en ai un peu marre dans la littérature française. On a eu Delphine de Vigan, folle en tout cas, névrosée, suicidaire, etc. On en a eu d'autres. Enfin, là, ça ne me viennent pas toutes, mais je reviendrai avec ma liste.
Un livre qui est sorti avant l'été de Geneviève Brisac, où la mère ressemble beaucoup à celle de
Violaine. De violent huissement. Enfin bon, il y en a eu d'autres. Et là, bon, on se retrouve, voilà. Et puis, cette façon, comme vous l'appelez l'âne de Buridan, j'imagine que vous parlez de cette alternance de chapitres. L'un traite de ceci, l'autre traite de cela, et ça revient et ça se répète, et c'est un peu figé comme. Eh bien, je me suis laissée complètement prendre à ce livre, parce qu'en effet, je pense que sa force, c'est d'être construit comme un roman policier. Je trouve ce qui m'a bouleversée, c'est le fils qui était éloigné de la mère, en fait, faut le dire. Je pense qu'ils avaient un très mauvais rapport. Ils ne la voyaient plus. Cette mère était devenue un personnage un peu étranger au fils. Et tout d'un coup, s'investit de la mission presque d'écrire lui-même le guetteur, c'est-à-dire ce roman, ce début de roman policier qu'il trouve dans les affaires de sa mère. Il va commencer à l'intégrer à son propre roman et à l'écrire. Et à travers ça, à raconter l'histoire de sa mère. Donc je pense que c'est le fils qui parachève le geste avorté de sa mère, qui me bouleverse. Il y a plein de choses. Il y a comment il déménage avec sa sœur très très vite l'appartement de sa mère, comment on aime pas être dans ces situations. Là, je les ai vécues, c'est épouvantable. Comment il parle de la guerre d'Algérie et ce qu'était sa mère, une résistante, d'une certaine façon. Et je trouve, ça nous renvoie, nous, notre génération, on n'a jamais vécu des guerres. Et au fond, nos parents et nos oncles et nos tantes sont un peu des êtres énigmatiques parce qu'eux ont vécu ça.
Le guetteur, c'est chez Stock. Et c'est donc le roman de Christophe Boltanski. Allez, un conseil pour terminer cette émission. Si vous avez un premier roman de cette rentrée, il y en a 94 qui paraissent. c'est beaucoup. C'est encore mieux, mais sinon, ben, autre chose. Arnaud.
Moi, il y a un romancier français que j'admire de plus en plus. C'est François Bégaudeau qui publie un nouveau roman qui s'appelle En guerre. Alors, si vous avez vu le film de Stéphane Brisé, qui s'appelait En guerre aussi, avec Vincent Lindon, qui était sorti printemps dernier, vous allez voir qu'il y a des ressemblances totalement pur hasard. Pur hasard, parce que là, le En guerre fait référence, parce que le livre commence la semaine novembre. C'est la première rentrée littéraire avec des livres sur les attentats du Bataclan. Et En guerre de Bégaudeau en fait partie, mais d'une manière très, très lointaine. Mais En guerre, c'est l'expression que Manuel Valls avait utilisée à la télévision au lendemain de l'attaque du Bataclan, qu'il avait répété 14 fois en 10 minutes, et qui donne le ton du livre. C'est un livre très comique, un livre sociologique sur l'histoire d'un bobo hipster. Ça se passe dans une petite ville à une heure de Paris, en fait, à sa cathédrale gothique. Elle n'est jamais nommée, mais on peut reconnaître Beauvais, en l'occurrence. La cathédrale va jouer un rôle dans l'histoire, d'ailleurs. C'est un bobo hipster qui tombe amoureux d'une beurette qui travaille justement dans un entrepôt logistique d'Amazon qui prend cher dans cette rentrée littéraire. Et c'est un roman sociologique qui pose une question. Est-ce qu'on ne ferait pas bien de temps en temps d'accéder à notre propre violence? Voilà. C'est magnifique.
C'est chez Vertical. C'est En guerre. Et c'est François Bégaudeau, Le conseil de Frédéric.
Un premier roman de Mathilde Marie de Malfilâtre, Babylone Express. Alors, je rends hommage.
Vraiment?
Alors, je ne sais pas du tout si c'est un canular, le nom, ou si c'est un pseudonyme, ou si c'est vraiment son nom. Je rends hommage au dilettante, parce que le dilettante, il découvre quand même souvent des trucs très bizarres. Et là, c'est donc une lieutenante de gendarmerie qui prend du LSD, qui organise un trafic d'ecstasy, tout en participant à des orgies échangistes sadomaso.
Ah oui, c'est ça, quoi, c'est pour ça, oui.
Je pense que ce roman a été écrit uniquement pour Arnaud Vivian et moi.
Ouais. Déjà, moi, en tout cas, il m'en a lu quelques pages au troquet, là.
C'est bien.
Franchement, il y avait quelques phrases que j'ai trouvées extraordinaires.
Oui. Tu rappelles
C'est vraiment très lyrique, très fou, complètement barré. Premier roman, voilà, il faudrait essayer d'enquêter pour savoir si c'est Zarka qui l'a écrit ou si c'est vraiment quelqu'un qui existe. Mathilde Marie de Malfilâtre, Babylone Express, aux dilettantes. Et le titre Babylone Express, ça vient du fait que la lieutenante travaille au commissariat de la rue de Babylone.
Que tu connais bien.
Mon conseil, c'est aussi un premier roman, La vraie vie d'Adeline Dieudonné, un premier roman belge, c'est-à-dire à la fois très surréaliste et très naturaliste, où une fille de 10 ans raconte une enfance, il faut dire, absolument horrifique, dans un pavillon rempli d'animaux morts. Le père Viandard, qui frappe sa femme et qui transforme sa fille en gibier de chasse. Ça pourrait être un film de Bouly Lanners, ou Joachim Lafosse, tellement c'est belge dans le bon sens du terme. Je vous le conseille donc, La vraie vie
sens,
d'Adeline Dieudonné, et c'est aux éditions de l'Iconoclaste. Le conseil que nous donne Nelly.
Alors, pour s'en tenir strictement au premier roman, j'en ai deux. Lisa Hallyday, Asymétrie chez Gallimard.
Ah, je l'ai vu celui-là.
Qui est, qui est un peu complexe.
On va en parler.
Je vais pas raconter tout le livre ici, mais en tout cas, la première et la plus importante, à mon sens, partie. Qui est l'histoire d'amour d'une très jeune fille de la narratrice.
Avec un grand écrivain américain.
Avec un grand écrivain américain, derrière lequel on devine Philip Roth.
Elle ne s'en cache pas d'ailleurs. Hein.
Non, elle ne s'en cache pas d'ailleurs, elle le dit.
Elle le dit.
Oui, c'est tout à fait clair et c'est tout à fait Philip Roth, bien qu'elle ait inventé des choses, nous a-t-elle dit. Et j'ai trouvé toute cette partie sur cette histoire d'amour comme ça, asymétrique, absolument drôle, magnifique, lucide, cocasse, enfin extraordinaire. Et à un moment donné, évidemment, ça va se renverser.
C'est chez Gallimard, et encore une fois, on en reparlera au Masque et la Plume que nous
ferons. J'ai le temps pour un autre ou pas?
Ah, tu cites juste, parce que là,
alors,
on a plus le temps.
De Pauline Delabroix à l'art, ça raconte Sarah chez Minuit, qui est aussi une histoire d'amour entre deux femmes, qui est absolument magnifique.
Vroom, vroom, vroom.
Michel.
Moi, je voudrais rendre hommage à V.S. Naipaul, qui est mort il y a un mois, qui laisse une œuvre absolument extraordinaire sur l'Inde, sur un monde du XXe siècle qui nous paraît très loin aujourd'hui déjà, mais relire Naipaul est vraiment quelque chose qui vaut la peine. Alors, je citerai juste un livre de lui, celui par lequel je l'ai découvert, L'énigme de l'arrivée, qui avait été publié chez Christian Bourgois, qui racontait comment il était parti de Trinidad, où il est né, en Angleterre, en étudiant à Oxford et en vivant en Angleterre, en véritable anglais,
On le trouve en poche ou pas, Naples?
Hélas, je ne crois
peut-être
pas.
Peut-être en 10-18.
Peut-être bon. Quelques livres en 10-18, mais ça vaut vraiment la peine.
Tous ces conseils, vous les trouvez évidemment sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Nelly Caprielian, Michel Crépu, Arnaud Vivian, Frédéric Becbédé pour cette émission, qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam ce soir au Charles Trenet à la technique, et je les remercie. Il y avait Jean-Michel Bernot, Renaud Fluzin, Elidwin Caron. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, ce sera le jeudi 30 août à 20h au studio Charles Trenet pour une seule émission consacrée au cinéma. Dans une semaine, on parle de films et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.